The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
I thought the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha-ha-ha funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Sari Folie, épisode 22 de la saison 5.
C'est bien ça.
Bien le bonsoir, Aurore.
Bonsoir.
Bienvenue en studio. Série Folie, cette émission qui vous parle série télévisée de manière la plus intelligente possible.
En tout cas,
on fait ce qu'on peut. Aurore fait ce qu'elle peut. On va continuer comme à chaque semaine, finalement. On va démarrer cette émission avec une revue de deux séries télévisées, une récente et puis une plus ancienne.
Voilà, exactement. On commence par la nouvelle. La nouveauté que je propose de traiter aujourd'hui s'appelle Everything Sucks. Et c'est une série qui nous a été proposée il y a peu sur Netflix. Alors, Everything Sucks, ça nous parle de quoi ? C'est une série de 10 épisodes assez courts, hein, entre 20 et 30 minutes maximum. Qui se situe dans les années 90, je crois en 1996, et nous suivons une bande de jeunes qui sont encore au lycée, je crois que c'est plus ou moins ces âges-là, et qui donc, comme toujours dans ce genre de récit-là, découvrent un petit peu la vie, l'amour, éventuellement quelques désillusions par rapport aux adultes, etc., etc. On connaît le refrain. Tu t'en doutes un petit peu. Alors, tu te doutes aussi, vu que j'en parle, c'est que ça m'a pas totalement déplu, vu que j'ai dit que
tu ne reviendrais pas sur ce que tu n'aimes pas.
Je
oui.
n'en parlais même pas. Donc j'ai vu la série en entier. Ça va relativement vite, hein, comme je l'ai dit. Donc en quelques soirées, c'était fait. Il faut avouer que surtout dans le pilote, mais surtout dans les premières minutes. On a de quoi se poser des questions, principalement parce qu'on a l'impression d'avoir un catalogue exhaustif de toutes les choses un petit peu bizarres et gadgets qu'il pouvait y avoir dans ces années-là. On passe du troll aux musiques qu'on écoutait à ce moment-là. Évidemment, il y avait les vêtements, les différents médias possibles, il y avait encore les cassettes, etc. Et du coup, on se dit, oula, ils y vont quand même pas de main morte. C'est relativement lourd dans la présentation des premières minutes où on a vraiment l'impression que ça y est, ils nous ont fait en quelques minutes l'ensemble de l'inventaire de ce qui pouvait paraître kitsch de cette époque-là, pas à cette époque-là. À cette époque-là, j'imagine que ça devait être super à la mode. Quoique.
Oui.
Oui. Donc, au départ, c'est vrai.
C'est très cliché.
On met un petit peu de temps accéder à l'histoire en elle-même et à se laisser faire, entre guillemets. Ceci dit, malgré tout, on va suivre quelques personnages qui sont relativement sympathiques et qui, peu à peu, vont nous permettre de laisser baisser nos armes pour finir par avoir envie de les suivre tout simplement. Principalement les deux personnages principaux qui sont sans aucun doute les plus sympathiques. On a un jeune garçon qui tombe amoureux d'une fille et qui est aussi une sorte de réalisateur en herbe. Il aime bien jouer avec tout ce qui est le montage, la réalisation de films, etc. Et donc ça va donner l'occasion de découvrir le côté artisanal que ça pouvait éventuellement encore avoir dans ces années-là, de faire un film ou de faire un clip, tout en donnant aussi certaines scènes où justement on va pouvoir voir ce qu'il réussit à faire, qui sont vraiment vraiment pas mal, quoi. Je me souviens plus si c'est au premier ou au deuxième épisode où il finit par faire un clip lui-même, à réaliser un clip et qui est vraiment vraiment pas mal pour le coup. Le deuxième personnage, donc, c'est la jeune fille dont il tombe amoureux, mais dont on devine très très vite, donc je ne pense pas faire un spoiler ici, que ses tendances se dirigeraient plutôt vers les filles que vers ce jeune homme. Et donc, bon, ben, ça donne aussi très vite l'occasion de moins s'intéresser à l'époque, parce que finalement l'époque importe moins dans ce cas-ci que simplement le parcours de cette jeune fille qui commence à accéder à ce qu'elle est, à essayer de comprendre ce qu'elle est et à essayer de le faire admettre aux autres également, quoi. Donc très vite les personnages et l'histoire finissent par prendre le dessus. Voilà, donc en gros, plutôt sympathique au final, même si il faut passer outre la grossièreté des premières minutes. Un divertissement vraiment, vraiment sympathique, sans grande ambition non plus, hein, même si il y a pas mal de choses quand même qui auraient pu être plus travaillé, être un peu moins cliché, notamment on sent que dans la bande de copains qu'ils ont constituée autour de ces deux personnages-là, qui, comme je l'ai dit, sont les plus touchants de la série, on a presque l'impression d'avoir un copier-coller de certains personnages de Stranger Things, qui est quand même un petit peu gênant. Déjà qu'on avait très fort le sentiment qu'on voulait jouer sur la corde de la nostalgie, même si là, c'est pas les années 80, ce sont les années 90, mais malgré tout, on est dans le même registre. Et puis, avec ces personnages-là qui, même physiquement, parfois ressemblent aux personnages quasiment équivalents dans l'autre série, ça fait un petit peu beaucoup. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Et ces personnages ont moins de profondeur aussi qu'ils ne l'avaient dans Stranger Things. Donc ça grandit encore le sentiment de copier-coller, quoi. Voilà, voilà.
Voilà pour ton premier avis.
Malgré tout, hein, y a une saison 2 qui devrait arriver et je la regarderai avec plaisir. Hein, donc voilà, je ne vais pas bouder non plus. La série, cette fois-ci, plus ancienne, dont je vais parler de Crazy Ex-Girlfriend, qui a clôturé au bout de 13 épisodes, je crois, sa troisième saison. Alors, on a eu l'occasion vraiment de suivre tout le parcours du personnage principal, Rebecca, dans cette série. Et je dois dire que, alors qu'on aurait pu craindre que le propos s'essouffle ou finisse par tourner en rond, c'est assez rassurant de voir à quel point à chaque saison... Alors, il n'y a pas que le générique de début qu'il renouvelle. Il y a vraiment l'ensemble de l'arc de la saison et donc des sujets qui vont être traités, qui diffèrent et qui nous permettent justement d'explorer à chaque fois des recoins différents de... alors, c'est quoi des problèmes du personnage principal. Dans le premier, on était vraiment plus dans une forme de folie douce où une fille harcèle comme ça un peu un garçon, essaie à tout prix de se faire aimer de lui. Dans la saison 2, on est passé à quelque chose de totalement différent puisque finalement, quelque part, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Et donc, mais on constate à quoi ça peut ressembler aussi quand finalement on obtient tout ce qu'on veut, c'est pas pour autant qu'on est comblé. Et c'était très intéressant. Et puis dans la saison 3, là, on touche le fond et on va explorer des thèmes peut-être un petit peu plus dépressifs. C'était vraiment, vraiment plaisant à suivre aussi cette saison-ci. Donc voilà, je continue à donner ma voix à cette série qui me paraît de très bonne qualité. Et puis quand elle nous propose des morceaux musicaux ou bien quand elle nous propose de suivre des personnages secondaires, c'est aussi souvent très drôle et assez savoureux. Donc à ce niveau-là, elle arrive aussi assez bien à se renouveler.
Voilà, donc tu adhères toujours, pas d'essoufflement pour toi.
Non.
Du renouvellement chaque nouvelle saison.
Voilà, exactement.
Merci pour ce partage d'impressions. La musique s'invite.
La musique, alors je ne l'ai pas dit, mais la chose que j'ai préférée en fait dans Everything Sucks, c'est peut-être la seule raison pour laquelle... Non, ce n'est pas la seule, mais enfin, ça m'a vraiment fait fondre totalement, c'est que nous entendons dans cette série la chanson Silent All These Years de Tori Amos, et donc je ne pouvais pas ne pas la passer aujourd'hui.
Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. What if I'm a mermaid in these jeans of hers with her name still on it? Hey, but I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. Really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. I think there's a heaven where some screams have gone. I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? Cause what if I'm jeans of his with her name still on it. Hey, but I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been here. days. Years go by, will I still be waiting for somebody else to understand? Years go by, if I'm stripped of my beauty and the orange clouds raining in my hand. Years go by, will I choke on my tears till finally there is nothing left? One more casualty. Let's hear what you think of me now, but baby, don't look up. The sky is falling, your mother shows up in a nasty dress, and it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you, you take hold of my hand. Yeah, I can hear them, but what if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes, I said sometimes, I hear my voice, I hear my voice, I hear my voice, and it's been
de Série Folie. On aborde le sujet du jour. Nous allons parler, Aurore, de nostalgie.
Exactement.
Alors, on ne parle pas évidemment du réseau Radio FM bien connu en France et en Belgique.
Non, c'est vrai.
Mais plus de la nostalgie en général, telle qu'elle est représentée dans les séries télévisées.
Voilà, c'est un sujet qui a été beaucoup traité dans des articles et d'autres émissions et podcasts à l'occasion de la sortie de la saison 2 et même d'ailleurs de la saison 1 de Stranger Things. J'ai voulu, moi, peut-être patienter un petit peu pour voir la vie que je pouvais m'en faire.
Oui, tu n'aimes pas te conformer
voilà,
à la vague.
Exactement. Mais là, avec Everything Sucks, je me suis dit, allez...
Là, je peux m'y mettre.
Là, je peux m'y mettre.
Tu fais ta précieuse, c'est
exactement.
Bien.
Donc, ben, je m'y mets. Et on va commencer par observer simplement les différentes figures que peut prendre la nostalgie, en commençant par remarquer simplement que la nostalgie, finalement, c'est un sentiment assez banal. C'est quelque chose de relativement universel et répandu dans l'expérience humaine, cette impression que finalement c'était peut-être mieux avant, ou en tout cas regarder les années passées avec un petit pincement au cœur en se disant que les choses étaient peut-être plus simples, plus faciles, etc. Donc à ce niveau-là, rien de bien nouveau ou de bien exceptionnel dans l'idée que les séries nous titillerait sur cette...
Essaye de nous attirer dans la zone de confort qu'on aime bien.
Voilà, sur cette corde-là qui nous caresse dans le sens du poil. Mais en même temps, on peut se dire aussi que même si c'est un sentiment relativement universel, peut-être est-il exacerbé aujourd'hui par deux choses. La première, ce serait simplement... un effet de l'accélération des modes, la nécessité, peut-être pour des raisons simplement mercantiles, de remplacer très très régulièrement la mode pour pouvoir vendre celle qui suit. Hein. Ça pourrait être une raison de cette accélération. L'autre étant simplement le fait que on est dans une un changement de culture depuis quelques années, voire dizaines d'années. On serait passé à une culture multimédiatique aujourd'hui, dans laquelle finalement la reprise et la référence est devenue un mode d'expression en soi. Il suffit de penser à tout ce qui est mème, à tout ce qui peut être vidéo sur Internet qui compile comme ça toutes sortes de vidéos précédentes pour en faire une création nouvelle. C'est devenu un mode d'expression comme un autre aujourd'hui, et donc finalement, dans ce sens-là, la nostalgie, ben, ce serait simplement mettre cette espèce de culture faite d'un langage méta, d'un langage composé de toute la banque d'images qu'on aurait dans la tête, finalement, c'est de faire de cette culture-là le centre du propos d'une série, tout simplement. Donc c'est ce qu'on peut observer en grande partie dans la série Stranger Things, justement, dans laquelle la référence au film et à toute la culture pop des années 80 va être l'exercice central de la série, même si, bah, évidemment, il y a aussi une histoire, il y a aussi des personnages.
Voilà, hein,
ça n'empêche pas. Dans Everything Sucks, comme je l'ai dit, le jeu est sur ce point-là un peu moins réussi. On a plus l'impression que on a le prétexte qui est utilisé de manière plus ou moins pataud d'ailleurs. Parfois, c'est très très réussi, notamment quand il y a quand c'est intégré au récit, comme dans la création du clip ou plus tard dans la création d'un film, où là on intègre vraiment toute cette culture de ces années-là au récit, mais à d'autres moments c'est moins réussi et le jeu en valait peut-être moins la chandelle. On a juste une sorte de décor, de contexte mis avec plein de gadgets qui nous sont dressés devant les yeux comme ça, de manière un petit peu anarchique, quoi. Donc voilà, ça ce serait la première figure donc de la nostalgie actuelle dans les séries. Ce serait simplement un jeu avec une culture méta, une culture pop qu'on aurait tous en tête et qui nous permet de recréer à partir de plein d'images déjà présentes dans nos esprits. Une autre figure qu'on peut retrouver aussi dans les séries, c'est plus ce qu'on va retrouver dans une série comme 13 Reasons Why, c'est-à-dire... là, on n'est pas du tout dans le passé, donc c'est pas de ça qu'il s'agit, mais on va utiliser une sorte de vernis vintage comme ça sur un certain nombre d'éléments de la série qui donne à la fois, qui essaie de donner un aspect d'authenticité. C'est évidemment autant Tony et sa voiture rouge que l'usage de cassettes audio à une époque où, ma foi, les cassettes audio, c'est vachement difficile quand même de s'en fournir et de fournir l'appareillage qui permet d'enregistrer dessus, de les écouter, etc. C'est vraiment rajouter de la complication inutile, mais ça met un petit vernis un peu vintage. Et en même temps, ça va permettre aussi de soutenir une forme de critique du présent et notamment une critique de l'usage actuel des nouvelles technologies principalement dans ce cas-ci des smartphones avec toutes les possibilités de faire des photos ou bien d'harceler les gens sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses-là qui sont pas bien. J'espère que tu l'as bien compris en regardant la série,
oui,
bien sûr.
Bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est la deuxième figure. Dans ce cas-ci, c'est une nostalgie, mais une nostalgie au temps présent, quoi. C'est vraiment se dire, ah, quand même, qu'est-ce que c'était mieux avant.
Il y a ça, et puis... Pour 13 Reasons Why, je l'avais déjà expliqué, c'est aussi une sorte de prétexte pour donner un contenu
oui,
plus
évidemment.
Romancé autour de la manipulation de la cassette.
Oui, c'est ça. Évidemment, si on n'avait pas ça, on perdrait peut-être des dizaines de minutes qui rendraient la série beaucoup plus courte.
Oui, on écouterait un enregistrement sur un smartphone.
Ben voilà. Et tout le monde pourrait l'écouter en même temps. En plus, on ne serait pas obligé de se passer les cassettes de main à la main après avoir tout écouté religieusement. Donc, c'est vrai que ça détruirait une bonne partie.
Donc, clairement, je ne sais pas si la recherche, c'était la nostalgie ou plus le prétexte pour pouvoir tenir le récit debout.
Mais oui, mais donc ça, c'est pour le côté cassette, même si... Malgré tout le côté critique sur les technologies actuelles, me semble-t-il, est un peu présente en sous-texte. Mais par contre, le Tony qui est tout gominé dans sa voiture,
qui répare une vieille bagnole.
Voilà, ouais. C'est ça. Là, c'est plus pour le côté un peu vintage. On ne sait pas trop bien pourquoi d'ailleurs. Voilà. Mais bon, on va pas revenir pour une millième fois sur cette série. On a déjà dit tout le mal qu'on en pensait.
Ouais, j'allais rajouter cette série détestable.
Écoute, il y en a plein qui ont aimé, donc voilà.
On va pas le dire comme ça.
Voilà, exactement. Alors, troisième figure, cette fois-ci, c'est très très différent, puisque... Le rapport avec la nostalgie est peut-être moins évident, et pourtant, dans certaines séries qui vont jouer peut-être plus avec les voyages dans le temps, ou bien l'anticipation, ou carrément le côté plus exploration des risques... pour le futur. Hein. Je pense principalement à la série Philip K. Dick, Electric Dreams et puis Dark. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la nostalgie ou en tout cas on a un sentiment comme ça de permanence dans le temps qui donne un petit vague à l'âme comme ça mais plutôt agréable. C'est pas quelque chose de triste, c'est au contraire remarquer que finalement, quelle que soit l'époque, les gens restent les mêmes, quoi. Tu vois, ça ne nous change pas profondément. Et ça, je trouve que c'est un message qu'on retrouve dans ces deux séries-là principalement, qui change un petit peu notre regard justement sur la nostalgie et sur les possibles le sentiment que tout fout le camp et que oh là là, qu'est-ce que c'était mieux avant, etc. Il y a quelque chose d'un petit peu différent qui se dégage de ces séries-là, moins dans le regret, quoi. Donc voilà. Alors une autre figure aussi, évidemment, une série nostalgique, c'est pas l'équivalent d'une série historique. On peut avoir des séries historiques qui sont pas du tout, qui ne jouent pas du tout sur la nostalgie. Ceci dit, malgré tout, le succès d'un certain nombre de séries qui se passent dans le passé s'appuie en partie sur le charme, parfois un peu suranné, de la représentation de ce passé, justement, qui peut être un peu fantasmé, notamment autour de la mode ou ce genre de choses-là. Je pense à une série comme Mad Men, dont on se souvient combien tout le côté habillement, tout le côté un peu classe de à cette époque-là les gens s'habillaient bien, les gens étaient mieux élevés, enfin semblaient avoir eu une vie plus je sais pas, plus ordonnée, etc. Et puis en même temps il y avait une forme de liberté qu'il y a pas actuellement dans l'usage de l'alcool, du tabac, etc. Enfin à l'époque où Mad Men était diffusé, c'était quand même si finalement le propos de Mad Men, c'était plutôt de nous montrer à quel point les choses étaient derrière le vernis, étaient quand même loin d'être parfaits, beaucoup de gens n'en ont retenu que le côté glamour finalement. Et ça, c'est aussi intéressant de remarquer que finalement, quel que soit le propos, parfois... on regarde une série rien que pour pouvoir regretter peut-être cette époque-là où les gens semblaient plus beaux, où la vie semblait plus facile, etc. Là, pour le moment, je suis en train de parler sur le générique de Downton Abbey. Dans Downton Abbey également, on a un petit peu l'effet... les choses étaient plus simples à l'époque, quoi. Hein, même si, évidemment, rien n'est jamais simple dans Downton Abbey. Malgré tout, ce sont des petits problèmes
ouais.
Quoi. Tout le monde était beaucoup plus proche les uns des autres, plus unis. Et puis, même s'il y avait des classes sociales, mais les gens s'aimaient tous bien. Et puis voilà, quoi. Hein, donc, il y a un côté un petit peu quand même. De véritable nostalgie quand on regarde certaines séries historiques. Encore dernièrement, la série The Marvelous Mrs. Maisel, me semble-t-il, jouait un petit peu aussi sur ce côté-là, en se situant dans le passé, nous proposait finalement aussi de profiter des costumes, d'une époque où les choses semblaient plus belles, etc. Quoi. On a plus l'impression d'avoir parfois une maison de poupée devant nos yeux, avec des gens toujours bien habillés, etc. Qui fait le charme de ce passé, mais un passé qui est totalement fantasmé.
Oui, c'est ça, romancé et amélioré.
Voilà, exactement. On pourrait même aller jusqu'à se dire que dans certaines séries, mais cette fois-ci qui sont pas du tout sur le côté charme comme celle que je viens de citer, certaines séries peuvent peut-être évoquer aussi une nostalgie d'un temps où on était plus libre, où la sexualité était plus débridée aussi, ou ce genre de choses-là. Je pense à des séries... plus du genre viking ou tu vois ce genre plus brutal, plus tribu, etc., où on a aussi une représentation du passé. Le fantasme est différent, mais on pourrait se dire que...
Je suis moins nostalgique de cette époque-là, tu vois.
Ah bah écoute, chacun ses goûts.
Oui, je sais pas.
T'as pas l'impression qu'il peut y avoir
déjà...
aussi un effet de nostalgie
Non.
Non.
Moi déjà, le manque de confort.
Ah oui.
Ça va déjà pas.
Mais étonnamment, on les voit jamais être là en train de se lever le matin en se disant « Ah, j'ai super mal au dos parce que j'ai mal dormi sur ma paillasse. Hein. » C'est pas le genre
Non, mais on voit bien que il fait pas toujours chaud dans leur peau d'ours tué la veille. la bouffe, c'est assez cru, hein, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Enfin, voilà, c'est pas... oui, moi, personnellement, je ne mettrais pas le mot nostalgie.
Oui, d'accord, ok.
Je suis pas nostalgique de cette période-là.
À mon avis, de fait, que ça dépend des personnalités aussi. Hein, mais c'était une possibilité que pour certains, ça représente finalement aussi un monde plus simple et un peu idéal pour ceux qui veulent à nouveau pouvoir vivre l'aventure en pleine nature ou ce genre de choses-là. Quoi.
Ouais, je me vois plus, tu vois, du temps des cow-boys et des Indiens, même si...
Voilà, ça aussi, ça peut être la nostalgie des grands espaces, etc.
Voilà.
Ouais. Comme dans Godless, par exemple.
Oui, tout à fait, Godless, ou même...
Deadwood.
Deadwood, évidemment. Ouais. Évidemment. Je cherche mes mots. Voilà. Ça, ça me parle plus. C'est même une époque qu'on n'a pas connue, et même un pays qu'on n'a pas vraiment eu comme racine. Mm-hmm. Mais l'inconscient collectif imposé à la télévision fait que finalement, on aime bien ça.
Ah oui, c'est vrai. Et dans Deadwood, mais c'est peut-être un autre imaginaire, une autre nostalgie, mais le fait que tout soit à faire, finalement, ça peut aussi avoir son charme, quoi. Hein, se dire, on est sur une sorte de terrain vierge où tout reste à faire et c'est à nous de savoir quelle société on veut créer. Mmh. Ça peut être aussi un peu grisant, quoi. Alors, autre figure, c'est la cinquième figure de la nostalgie que peut prendre les séries télévisées. Cette fois-ci, il s'agira de la reprise de matériaux anciens. Je veux parler principalement des films qui sont déclinés en série ou bien des sequels, des prequels, des spin-offs, ce genre de choses-là, où on peut se dire, finalement, là aussi, c'est un effet de la nostalgie, mais on y reviendra un petit peu plus tard quand on verra peut-être les limites à cette nostalgie. Et enfin, la sixième et dernière figure que j'ai pu repérer, c'est tout le côté qu'on va retrouver dans certaines séries apocalyptiques, où finalement la nostalgie va s'exprimer aussi, mais pour le présent, puisque dans ce cas-là, on est dans un passé dans un futur imaginaire, et il y a certains moments où on voit les personnages regarder les vestiges de la société actuelle, soit se souvenir, etc. Et ressentir eux-mêmes de la nostalgie vis-à-vis de la vie que nous vivons actuellement. Et ça aussi, c'est intéressant d'explorer que finalement, ce que nous vivons, nous, comme une société moins idéale que celle d'avant, sera probablement un idéal fantasmé pour les générations à venir. Ou pas, hein, d'ailleurs.
Ou pas.
Donc voilà, ça c'était la dernière figure de la nostalgie à laquelle j'avais pensé.
Merci à toi.
On s'écoute de la musique maintenant ?
C'est une excellente idée.
Ok, alors on va s'écouter My Heart Will Go On de Céline Dion, entendu dans Fresh Off the Boat et Shameless.
Loved you. one true time I hold you in my life will always go on. Near, far, wherever.
Voici de retour déjà pour la dernière partie de cette émission Série Folie. On parle de nostalgie avec Aurore.
Exactement.
On t'écoute. Hein.
Ah bon, ok, d'accord. Bon, on va parler des limites donc éventuelles à cette tendance de la nostalgie sur laquelle peuvent surfer certaines séries. J'en dénombrerai deux principalement. La première, c'est le fait que si on a trop de références, comme je l'avais dit un petit peu avec le tout début de Everything Sucks, quand on a un clin d'œil un petit peu trop appuyé aux téléspectateurs en disant « Oh, regarde, t'as vu, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça aussi, hein, t'as vu ?» Au bout d'un moment, ça nuit quand même à la crédibilité de l'univers, quoi. Hein, même si, oui, c'est vrai, dans les années 90, il y avait des trolls, il y avait tel vêtement, il y avait tel gadget, etc. Si on les met tous ensemble en même temps, ça fait beaucoup moins années 90 que petit musée de tout ce qui pouvait se faire de plus horrible dans ces années-là. Si tu vois ce que je veux dire. Donc,
ouais, c'est un peu too much, même si je ne suis pas sûr que ceux qui n'ont pas vécu cette période-là s'en rendent compte à ce point-là.
Oui, ça peut-être. C'est vrai que il peut y avoir une tendance, si on ne l'a pas vécu, à penser que ça ressemblait vraiment à ça, tout comme nous, si
ouais,
on n'a pas vécu
les années 70,
60,
ouais.
Par exemple, ben, on se dit ah, ben, ça ressemblait peut-être à ce qu'on nous en montre, ce qui est certainement que très partiellement le cas, en effet. Mais donc, au minimum, c'est vrai pour ceux qui l'ont vécu, et malgré tout, pour le moment, avec la vague des séries qu'on voit actuellement sont quand même des séries qui se réfèrent à une époque qui n'est pas si lointaine. Uh-huh. Hein, donc on est quand même beaucoup à avoir vécu, en effet, les années 80, les années 90. Ça nuit à l'immersion, quoi.
Hein. Oui, clairement.
On ne peut pas être totalement naïf en train de se dire je suis une histoire pour le plaisir de suivre une histoire. On est un petit peu sorti de notre immersion totale par le fait que on n'arrête pas de nous faire des clins d'œil appuyés et au bout d'un moment on sort complètement du récit. Donc il y a quand même une nécessité pour que la série ne soit pas indigeste, que la nostalgie ne soit pas le propos unique de la série, parce que ça devient impossible à regarder dans ce cas-là. Par contre, on peut constater quand même que si c'est accompagné d'une vraie histoire, qu'on a des vrais personnages qui sont quand même un minimum indépendants des clichés auxquels ils sont censés se référer, dans ce cas-là, la référence peut présenter une couche d'interprétation supplémentaire dans notre lecture du récit, et donc ça peut être simplement une richesse supplémentaire. Je pense par exemple à la série Stranger Things, dans laquelle on a, malgré tout, c'est vrai, au niveau de la forme, quelque chose, et de la forme et des différents type de personnage, on a quelque chose qui peut ressembler assez à un certain nombre de fictions des années 80, mais en même temps, au niveau des rôles qu'on fait jouer à ces personnages, et notamment au niveau de la distribution des rôles entre les genres masculins et féminins, ou bien même dans le mélange qu'il peut y avoir entre les adultes et les enfants, on sent qu'on n'est plus tout à fait dans la même époque. Et le fait qu'on se réfère à un univers connu permet de souligner encore plus ces différences-là, et donc de voir éventuellement le parcours qui a été réalisé dans certains domaines, quoi. En tout cas, c'est une des choses que j'avais vraiment beaucoup appréciée en regardant la saison 1 de Stranger Things, c'était de constater à quel point les personnages féminins étaient traités intelligemment, là où beaucoup de fictions des années 80 présentaient les filles comme juste capables de crier très très fort quand il y avait un monstre et puis de s'enfuir et que les garçons venaient les sauver. Là, on est quand même passé à autre chose. Et dans la gestion aussi de la question des relations, notamment entre les personnages d'adolescents, on n'avait pas le même type de relation auquel on aurait pu s'attendre dans une série qui s'inspirait des fictions des années 80, quoi. Et donc là, ça permettait vraiment de profiter de cette référence-là de manière encore plus intelligente. Donc voilà, si on n'a pas une référence trop appuyée, malgré tout, ça peut être intéressant. La deuxième limite, une critique qu'on fait très très souvent, c'est l'idée qu'il y aurait un défaut de créativité. C'est une angoisse qui semble tenir en éveil beaucoup de sériphiles. Plus personne n'est capable d'inventer quoi que ce soit de nos jours. Mon Dieu, où va-t-on ? Et en plus, il y aurait un opportunisme industriel à faire du fanservice à tout prix. Bon, c'est pas totalement faux. Hein, on va pas se mentir que dans un certain nombre de cas, c'est vrai, nous avons affaire à une industrie culturelle et que parfois, on a clairement du fanservice pour du fanservice qui, au bout d'un moment, peut finir par en gaver un certain nombre. Principalement parce que ces choses-là nous mettent face à un manque d'authenticité, et à nouveau, ben s'il y a pas d'authenticité, on peut pas totalement adhérer à l'histoire, on peut pas s'immerger totalement, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être gênant. Maintenant, toutes les séries qui surfent sur la vague de la nostalgie ne tombent pas dans ce travers-là. Certaines font preuve de beaucoup de créativité, justement, dans, parce que c'est pas si facile que ça de reprendre intelligemment quelque chose qui a déjà existé. Et puis toutes ne tombent pas dans l'opportunisme pur et simple. Il y en a qui sont de vraies réussites. Donc, c'est à déterminer au cas par cas si on a vraiment un manque d'authenticité ou pas. Et d'ailleurs, ben, on peut avoir des avis qui divergent à ce niveau-là. Il y a peut-être certaines séries qui, moi, me paraîtront totalement inauthentiques et qui, à d'autres, paraîtront authentiques. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ceci dit, il y a un certain nombre de fans aussi qui... ont carrément peur de voir modifier un matériau qui de base qui avait été totalement idéalisé. On pense par exemple à ceux qui ont peur qu'on reprenne un film ou bien qu'on reprenne une vieille série pour en faire une adaptation actuelle pour coller un peu davantage à l'époque. Et il y a une vraie peur de la part de certains de voir ça. Ce qui, dans ce cas-ci, manifeste bien davantage un conservatisme et une forme de nostalgie de la part des fans que de la part des créateurs ou de l'industrie en question, quoi, hein. On peut évidemment toujours crier aux défauts de créativité, mais dans certains cas, c'est peut-être à nous aussi d'avoir peut-être l'esprit ouvert parce que la reprise peut aussi apporter des choses intéressantes. Je terminerai en parlant du message. En disant que finalement, quel est le message qu'on peut lire dans ces séries nostalgiques ? Est-ce que vraiment c'était mieux avant ? Au minimum, on ressent qu'il y a un besoin qui est parfois exprimé d'un retour à une plus grande simplicité des enjeux, et notamment au niveau médiatique, où on a eu, on est passé à une société totalement différente en un temps très très rapide, et du coup il y a une volonté de freiner un peu et de regarder en arrière pour voir où on était et où on arrive, parce que c'est un peu difficile de se situer. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on peut ressentir ce message-là. Il y a aussi l'idée que la réalité d'aujourd'hui, l'expérience qu'on vit tous au quotidien, elle est composée en grande partie par les images d'hier aussi, par une culture pop qui est devenue l'espace de partage par excellence entre les individus. Et du coup, on a besoin de stabiliser une forme de mythologie du temps présent. C'est la raison peut-être pour laquelle on va explorer énormément les grandes figures mythologiques de notre époque et les faire revivre à travers des origin stories, des prequels, etc. Et troisième chose, on ressent aussi qu'il y a un besoin de notre époque à se situer face au passé, mais aussi face à l'avenir, pour peut-être reprendre la maîtrise simplement de notre présent, parce qu'il y a peut-être un sentiment de perte de maîtrise de ce qui nous arrive. Parfois, ça peut être aussi l'expression d'une nostalgie pour une époque qui toucherait à sa fin, avec un ressassement du passé, simplement par peur de ce qui viendrait, quoi. Je terminerai par ma conclusion. Donc, la série, finalement, c'est un espace privilégié pour un ressassement. C'est vrai, puisqu'on est dans un média de la répétition, mais ceci dit, c'est un ressassement qui peut être très créatif, qui peut impulser de nouvelles choses et qui peut innerver un futur à venir. Voilà.
Voilà, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui, ou presque. On va vous rappeler simplement que cette émission sera podcastée très prochainement via le site internet www.seriefolie.be. Les réseaux sociaux relayeront l'information. On va se quitter en musique, Aurore.
Oui, et on va s'écouter Nothing Else Matters de Metallica, entendu dans Supernatural.
Merci à toi et à la semaine prochaine.
trust in who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say. I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care. Open mind.